Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Comme chaque jour, votre club BFM Crypto pour parler aussi de ce marché crypto qui tente à se développer malgré la chute des cours ces derniers mois. Valentin Demey nous accompagne. Salut Valentin.
Salut Guillaume.
Journaliste pour Crypto, Sébastien Deveau, alias Agoria. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci de nous recevoir.
Avec grand plaisir. Alors vous êtes artiste, producteur de musiques électroniques, DJ, fondateur des Nuits Sonores à Lyon, du label Sapiens, 5 albums à votre actif. Vous misez sur le Web 3. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Juste après un détour aussi par la courbe technique des cryptos, leur potentiel. Vincent Gann avec nous et Xavier Fenot. Salut messieurs.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver. Xavier Fenot, Interactive Trading. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Vincent, sur les cryptos aussi, on est en phase de nouvelles baisses en ce moment, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ether cet après-midi, Vincent.
Oui, bah écoutez, alors vous l'avez beaucoup décrit sur votre antenne, mais je le rappelle pour les auditeurs qui viendraient d'arriver, tout le monde attend effectivement demain une décision de politique monétaire de la Fed, alors pour parler clairement de la Banque centrale des États-Unis. Moi ce matin, j'utilisais une expression, je disais que la Banque centrale des États-Unis tenait le cours du Bitcoin et son évolution future immédiate entre ses mains. Je peux aussi dire qu'elle le tient par le cou, c'est-à-dire qu'elle peut serrer ou lâcher. En clair, jamais le cours du Bitcoin ne pourra tolérer une banque centrale américaine en mode panique qui remonterait son taux directeur de 1 point de pourcentage et qui annoncerait d'autres hausses de taux équivalentes d'ici la fin de l'année. Alors, c'est quelque chose d'important parce que qu'est-ce qu'a démontré la semaine dernière ? La semaine dernière, il n'y a eu que des bonnes nouvelles pour le marché crypto. J'entends par là des nouvelles endogènes. The Merge Ethereum, vous l'avez beaucoup suivi. Et beaucoup ont pu s'étonner que cette bonne nouvelle technique informatique n'ait pas créé cette étincelle pour mettre fin au bear market. Eh bien, c'est parce que cette étincelle haussière liée aux éléments propres au marché crypto, elle arrivera, mais elle arrivera plus tard. Elle arrivera quand le marché crypto se sera libéré du contexte global macro et cross-asset actuel, lorsque le marché crypto se sera libéré des perspectives de hausse de taux, et ces perspectives de hausse de taux, elles se termineront lorsque l'inflation sera détruite. Alors vous voyez, le chemin sera encore long et je ne serai pas surpris demain que le marché crypto soit sous pression si la Fed agit et communique en mode panique contre cette inflation.
Oui, on n'est toujours pas dans la phase de rebond durable sur les cryptos, pas pour l'instant en tout cas. Xavier, quelle perspective voyez-vous d'un point de vue technique sur les cours des cryptos dont on parle ?
Vous venez de le dire, effectivement, j'aurais préféré vous dire l'inverse, mais clairement, c'est pas beau. Hein. On a une pression baissière qui est persistante. Vous en parlez sur les marchés traditionnels, sur les cryptos aussi. Les thématiques, on les connaît, les raisons, hein. Inflation, dollar fort, un taux, disons, aux États-Unis qui est au plus haut. Donc là, on est dans le dur hein, sur l'ensemble des actifs risqués depuis mardi la semaine passée. Là, la psychologie, on voit en fait techniquement que la psychologie a changé. Même si les tendances, on peut dire sur le Bitcoin, finalement, elle est neutre. Entre 19 000 et 25 000 dollars finalement depuis cet été. Sur l'Ether, on en a parlé dans le Pro des Cryptos, Guillaume, ensemble, vendredi. Fallait pas que l'Ethereum repasse en dessous des 1 400 dollars. C'était un point dur à pas enfoncer, sous peine de descendre d'un étage. L'étage plus bas a déjà été rallié, 1 280 dollars. Donc là, la tendance neutre n'est plus. Maintenant, elle est dégradée à court terme. Maintenant que The Merge est passé, l'effervescence finalement est retombée. Donc là, aujourd'hui, en fait, le marché n'aime pas ce manque de visibilité. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Le marché attend, vous l'avez dit, effectivement, la Fed demain soir, même si je vois pas vraiment comment Jérôme Powell pourrait rassurer les marchés. Donc, vu le contexte, il n'y a pas vraiment d'opportunité, en fait, sur le marché des cryptos. Alors, il faut s'adapter. Je me mets en retrait tant que le marché vous donne pas des éléments positifs. Je vous en donne quand même trois rapidement à bout de bras. Le Bitcoin tient à la zone des 19 000 dollars. La question, c'est jusqu'à quand ? Deuxième chose, c'est hier, on a vu que les accélérations baissières provoquent des rebonds importants à très court terme, je dirais même à trop court terme. Donc, ça nous donne dans le jargon des mèches, mais c'est pas suffisant. Et la dernière chose, c'est qu'il y a quelques irréductibles de crypto fortes qui tiennent, qui restent solides. Alors, faut pas regarder sur la séance d'aujourd'hui, mais faut regarder depuis cet été. Atom, QNT, Matic, il y en a quelques autres. Mais il faudra rapidement faire mieux pour, en passant les récents plus hauts. Donc, en retrait à court terme, j'espère me tromper avec un marché qui me fasse rapidement changer d'avis, en repassant sur le Bitcoin au-delà des 20 000 dollars et des 1 430 dollars sur l'Ether. Là, on sortirait de la panique. et il y aura des opportunités sur le marché.
Merci à tous les deux, Xavier Fenot et Vincent Gann. On rappelle, un actif toujours très volatile sur lesquels il vaut mieux investir l'argent qu'on est prêt à perdre ces cryptos dont on vous parle chaque après-midi dans ce club BFM Crypto. Bon, compliqué hein, sur les cours des cryptos. L'arbre qui tombe ne doit néanmoins pas empêcher d'entendre la forêt qui pousse. Et on voit que cet écosystème continue, malgré des cours en berne, cet écosystème continue de se développer. Valentin, le Nasdaq, d'après le média The Block, le Nasdaq souhaite lancer une branche dédiée aux cryptos et même un service de conservation des cryptos.
C'est la nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes. J'ai encore la tête sur le téléphone pour regarder les dernières informations qui nous parviennent. Et effectivement, c'est le média The Block qui dévoile cette information. Et les tout premiers communiqués de presse commencent à nous parvenir dans ce sens. Le Nasdaq se prépare bien à lancer un service de garde de crypto-monnaies institutionnel. Donc on est vraiment effectivement sur une grosse information émanant de la finance traditionnelle. On échangera un petit peu là-dessus dans quelques minutes et c'est peut-être pas surprenant. C'était peut-être pas attendu aussi gros, aussi fort et aussi rapidement. Mais c'est pas surprenant dans les annonces qui se sont succédées ces dernières semaines. Sur ce qu'on sait aujourd'hui, c'est une initiative qui s'inscrit un peu plus largement dans la volonté du Nasdaq, qui a déjà des services liés à la finance traditionnelle autour des crypto-monnaies, de se lancer dans cette dynamique de sauvegarde, de conservation de crypto-actifs. Là, on parle de Bitcoin et d'Ether. C'est pas si anodin. Ils ont même, par contre, et c'est plus intéressant à noter, recruté une personne de chez Gemini, qui est la plateforme, une grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, pour s'occuper de leur verticale digital asset. Donc voilà, les dernières informations qu'on a, c'est qu'ils souhaitent vraiment s'appuyer sur ces solutions réussies par le passé dans le cadre de leur collaboration avec d'autres produits financiers et actifs numériques pour apporter toute la sécurité du Nasdaq dans cette nouvelle offre qui sont les crypto-monnaies. Et c'est le PDG du Nasdaq qui nous communique ça il y a quelques minutes.
Il dit crypto-monnaie ou crypto-actif, le PDG
du
Nasdaq?
Il dit la crypto-monnaie dans la financière en crypto-monnaie.
Ah ouais, bon, bah voilà, il prend part à cette proposition.
Effectivement, traduit en français pour l'avoir audible à nos auditeurs. Ouais,
je vous chatouille un peu. Puisqu'on parle de monnaie, on va parler du dollar. Le projet de dollar numérique, il avance ce projet de dollar numérique aux États-Unis?
Il avance un peu moins que nous en Europe, en tout cas publiquement. Pour le coup, c'est quelque chose que là, on a vraiment suivi ces dernières années de plus en plus. La BCE qui s'est positionnée sur ces sujets-là. Et même il y a quelques jours, et on en parlera sur le plateau demain, une petite frayeur de la part de l'Europe sur sa souveraineté, au sujet de sa souveraineté. Lorsqu'on a appris ce week-end que parmi les 5 personnes, les 5 entreprises qui étaient sélectionnées pour travailler sur les sujets de l'euro numérique et surtout ce qui touche à l'interface utilisateur, il y avait Amazon parmi ces 5 entreprises. Donc petite frayeur concernant notre souveraineté européenne, mais en tout cas du côté des Américains, ils sont vraiment en train de se déployer sur ces sujets-là. Biden, le président Biden avait il y a quelques mois demandé à avoir un rapport sur le futur de la monnaie. Il en a eu 9 retours sur ces rapports. Et parmi ceux qu'il a eu, il y a effectivement cette monnaie numérique, cette MNBC dont on entend beaucoup parler. La seule crainte qu'ils ont, évidemment, il y a les craintes liées à tout ce qui va toucher à notre vie privée et autres qui pourraient être plus facilement dépouillées grâce à ces outils. Mais voilà, lui, c'est surtout l'empreinte énergétique des crypto-monnaies qui considère être à 1 à 2% de la totalité de l'électricité américaine, nous dit un des responsables américains. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer pour ne pas alourdir la charge énergétique côté US avant de lancer leur dollar numérique.
On a le sentiment que ça avance de tous les côtés hein, sur le dollar numérique, l'euro numérique, on pourra en reparler notamment demain, mais voilà, on a des petits indices. Et puis l'Inde, le roupie numérique aussi hein. L'Inde est en train de faire un pas vers un roupie numérique.
Exactement, mais c'est cette volonté des monnaies numériques de banque centrale, elle est vraiment palpable depuis quelques années. Mais là, depuis quelques mois, il y a cette fameuse guerre numérique et économique entre les grosses parties du monde. Se demander si c'est utile de lancer une MNBC n'est plus vraiment l'actualité. Là, c'est de savoir laquelle sera la plus avancée. Aujourd'hui, c'est en Chine, avec toutes les dérives qu'on connaît. Mais celle de la BCE devrait arriver en 2025-2026. Et côté US, ils vont accélérer grandement pour pouvoir se positionner également, c'est certain. Mais c'est là où je vous disais, c'est intéressant de voir, il y a quelques mois, Tornado Cash, qui était une application sur la blockchain qui permettait de cacher des flux et rapidement est tombé globalement après des attaques de l'organisme américain Donc, ils ont décidé de sortir cette dynamique un petit peu cachée des flux. Mmh. Ils ont fait passer de la réglementation. Là, on voit le Nasdaq arriver. Là, on voit les monnaies numériques de banque centrale arriver. Enfin, tout ça part vraiment d'une même intention qui est d'instrumentaliser, enfin, d'institutionnaliser, pardon, un peu plus la crypto. Bloomberg, et là aussi, ils ont annoncé pas mal de choses dans la foulée de cette information, se positionnent sur ces sujets. Donc voilà, on voit que le marché est vraiment en train de changer de position. Mais on en discutera demain davantage sur ce plateau.
Et on a en France la chance d'avoir une blockchain verte quand même. Tezos, qui est une extraordinaire blockchain, et Proof of Stake, et qui consomme très peu d'énergie, même si on sait qu'Ethereum et le merge fait une voix dans ce sens.
Alors là, c'est The Voice, pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui parle? C'est Sébastien Devaux, alias Agoria, c'est un artiste, et c'est ça qui est passionnant, un artiste engagé dans l'écosystème crypto, un artiste reconnu hein, et engagé dans le Web3. Vous êtes un producteur de musique électronique, Sébastien, 5 albums à votre actif, la musique originale de Go Fast, le film de Luc Besson, rien que ça, fondateur des Nuits Sonores à Lyon et du label Sapiens. Vous allez nous dire comment vous êtes venu au NFT et au Web3 et pourquoi vous pensez que l'avenir de votre métier passera par les NFT. Comment les NFT pourraient même changer la musique? D'abord, vous, votre raison d'être. Quand on pense au temps long, à ce que sera le monde de demain, en vous engageant à ce point dans le Web3, à quelle transformation pensez-vous que vous aurez participé?
Juste une petite correction, le film est produit par Luc Besson, mais dirigé par Olivier Van Hoogstad, qui est un réalisateur belge. Oui. Il fait le film Dick Enek.
J'ai dit le film de Luc Besson, mais en fait produit par Luc Besson.
Et aujourd'hui, c'est quand même un jour assez extraordinaire, je me permets juste de vous le dire, ça fait 5 ans, je crois, que le mot NFT a été blockchainisé. Donc, happy birthday à tous les créateurs et ceux qui ont pu utiliser ce médium pour faire voir leurs œuvres et travaux, puisque ça fait 5 ans maintenant qu'on peut l'utiliser. Moi, ma raison d'être, d'une part, je crois que je suis assez militant à la base, et je suis assez curieux. Et je pense que c'est pas par hasard si je suis né dans les musiques électroniques, notamment avec les rave parties. Il y avait un écrivain qui s'appelait Hakim Bey qui avait écrit un livre qui s'appelle Taz, qui est assez fantastique. Ce livre, je le conseille à tout le monde. Et il décrivait les rave parties comme étant le dernier espace de liberté connu. Et ça, c'était avant l'avènement du Web 3. Et je crois que le Web 3 est pour moi le dernier endroit de liberté où on peut s'exprimer, où on peut expérimenter. Surtout que les artistes, on est en général assez compliqués. On a quand même beaucoup d'idées. C'est difficile de se catégoriser. Et le Web 3, et notamment grâce à la blockchain, permet de mélanger différentes formes d'art, que ce soit l'art, la science, la musique, la technologie, bien entendu, et de les mettre tout en un pour ensuite les proposer via ce médium. Les NFT, c'est vraiment un médium de protection, un médium qui permet d'être visible beaucoup plus que quand on passe par une galerie, souvent, où il y a quand même un grand chaînon, ça prend 6 mois, 8 mois, 1 an pour organiser une exhibition. Là, on a la chance de pouvoir expérimenter et de le présenter dans le monde entier, et il y a une communauté assez incroyable.
Donc c'est un rapport plus direct aux amateurs d'art, musique, vous parliez de galeries, vous parliez donc aussi au-delà de la musique. Pour vous, les NFT, quelque part, sont un outil libérateur, émancipateur pour le marché de l'art?
Ah, totalement, oui. Je crois que c'est la révolution qu'a connue la musique dans les années 60. L'art est en train de la connaître aujourd'hui grâce à la blockchain. Plus que les NFT, d'ailleurs, plutôt par la blockchain.
Oui.
Je crois que dans les années, je sais pas, 1900, on devait, pour écouter la musique, inviter un orchestre à domicile, jouer des morceaux pour pouvoir les écouter à titre privé. C'est uniquement grâce à l'avènement d'une nouvelle technologie, les vinyles, les CD, les DVD, le streaming, qu'on a pu, de façon simple, autoriser chaque foyer à entendre un morceau de musique, quel qu'il soit, et même en découvrir. Et l'art, pour la première fois, permet à tout un chacun, grâce aux NFT, de rentrer dans leur foyer. Et ça, c'est quand même un truc qui est totalement nouveau. Enfin, moi, j'avais pas eu cette chance avant. J'ai fait quelques exhibitions, notamment pendant Art Basel, où j'ai travaillé avec Philippe Arénaud, qui est un plasticien français très connu. Mais c'était très difficile d'arriver à rentrer, je pense, dans tous les foyers, à être visible, à montrer son art. Aujourd'hui, la blockchain le permet.
Et c'est ça qui est intéressant, votre témoignage est intéressant parce que vous êtes un artiste, encore une fois reconnu, 5 albums, et vous vous êtes engagé dans cet univers Web3, vous semblez y croire, dur comme fer, la blockchain comme solution pour les artistes. Vous-même, comment est-ce que vous avez découvert cet univers?
Alors j'y suis rentré parce que j'adore le vivant. Ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui fait beaucoup d'œuvres technologiques, mais le vivant est ma passion et les recherches autour du vivant sont quelque chose d'assez extraordinaire. Donc je travaille beaucoup avec des biologistes, des biophysiciens, et des codeurs bien sûr, mais j'ai voulu regarder ce qui se passait à l'intérieur, dans ce qui était invisible, dans ce qui était caché. Et donc, on a commencé à travailler dans un champ de chanvre, donc le frère Cannabis, pour Madame de Pourtalès au château du Marais, qui m'a dit, ce serait sympa qu'on fasse une œuvre ensemble. Et donc, je me suis posé la question de savoir quelle était l'évolution de ces micro-organismes de chanvre, comment est-ce qu'ils évoluaient. Donc, on a construit un microscope au CNRS avec un biophysicien, Nicolas Desprats. Et de là, on a commencé à les filmer, ça marchait pas, il a dû reconstruire un microscope. Et de tout ça, en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait présenter cette œuvre? Est-ce que c'est un film qu'on met dans un musée? Est-ce que c'est un film qu'on présente dans des salles de cinéma? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on veut blockchainiser? Vu que c'est le vivant, on s'est dit qu'il serait intéressant de mettre le vivant dans le code. Et donc moi, tous mes travaux depuis 2 ans autour de ces questions sont l'immanence du code et du vivant.
Et vous pensez même que le Web3, la blockchain, pourrait transformer nos imaginaires? Alors, ça, oui. L'artiste, évidemment, pour un artiste, c'est quelque chose d'absolument fondamental, l'imaginaire, travailler l'imaginaire.
Oui, je crois qu'en fait, les intelligences artificielles, d'ailleurs je déteste ce mot, intelligence artificielle, tout comme le mot NFT, je trouve que c'est un mot très mauvais. Je préfère parler d'intelligence algorithmique.
Vous avez entendu, Valentin, il ne faut plus dire NFT maintenant. C'est terminé, ça.
Je préfère le mot intelligence algorithmique ou intelligence augmentée. Déjà, c'est un peu plus sympathique, parce que qui a tellement envie de travailler quelque chose d'artificiel? Pas vraiment. Et je vois les intelligences artificielles dans ce sens, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être des filtres pour notre imaginaire. Moi, je travaille sur un projet aujourd'hui qui s'appelle Compend AI, qui cherche à l'intérieur du code des patterns du vivant. Et tous les matins, je me réveille et je regarde des itérations du code qu'on a écrit avec Johan Lescure. On a passé déjà 1 an et demi à peaufiner ce code et regarder. Et chaque jour, on a des nouveaux résultats. Et donc, on change en fonction de ces résultats le code pour aller plus loin dans nos expérimentations et nos recherches. Et en fait, je crois que les intelligences artificielles, si elles sont utilisées de façon un petit peu bêta, comme on voit notamment pour DALL-E 2 ou Stable Diffusion, où on met juste une phrase et il sort une œuvre et on la montre, évidemment, c'est un peu comme la photo. Chacun a un appareil photo, mais c'est pas pour autant que la photo qu'il prend devient une œuvre d'art. Mais par contre, utilisée de façon un petit peu émancipée et avec un petit peu de curiosité, je pense que oui, en effet, elles vont filtrer notre imaginaire.
Alors, c'est encore une fois intéressant d'entendre un artiste parler de blockchain, parler, alors même si le terme ne vous convient pas, de NFT, parler de transformation de l'univers artistique à travers ces nouvelles technologies. Vous êtes encore un pionnier ou désormais le monde de l'art est converti à ces nouvelles technologies?
Alors, il y a de plus en plus de discussions avec les institutions, on va dire, pérennes et physiques, que ce soit les musées, les galeries, les grandes foires, qui ont envie justement de comprendre et qui nous appellent en nous demandant soit une curation, soit d'être exposés. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions à ce sujet-là. Mais la transformation, elle est... Je parle plutôt que transformation, c'est une métamorphose. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de... Je dis ça parce que souvent les gens ont peur quand ils m'écoutent après. En fait, c'est une métamorphose, on ne va rien effacer. Il ne s'agit pas d'une révolution, on ne va pas effacer. On ajoute des couches.
Ce n'est pas une soustraction.
Non, ça n'est pas du tout une soustraction.
C'est une addition.
En fait, le Spotify, pour la musique, pour faire plus simple, Spotify va continuer d'exister, comme le vinyle. Mais de la même façon que des projets comme ceux que je fais, où par exemple j'ai fait un player d'intelligence artificielle, où à chaque fois qu'on écoute mon morceau et qu'on appuie sur play, on a une nouvelle version de ce morceau. La version existe sur Spotify, mais vous pouvez l'écouter sur mon site agoria.dev et vous allez pouvoir à chaque fois avoir une nouvelle version. Et c'est assez d'ailleurs excitant de se dire comment parler d'un morceau qui change à chaque fois qu'on l'écoute. Peut-être que vous allez entendre une version avec un refrain, un chorus, et vous aurez peut-être pas de voix. Et donc c'est délicat de parler d'un morceau. Et donc voilà, je pense que ça pose pas mal de questions sur la pratique de l'art, sur qu'est-ce qu'un artiste, la créativité.
Oui. Donc, Valentin.
Moi, j'ai travaillé dans
Valentin,
la culture.
Voilà. Et là, c'est le grand blanc qu'il faut remplir.
Non, mais j'ai travaillé dans le secteur de la culture avant de travailler dans la crypto-monnaie. Donc, ça résonne particulièrement et j'aime beaucoup ces itérations et ces histoires qu'on peut se raconter autour de beaucoup de sujets comme ce que tu viens d'évoquer. Et surtout lié à l'intelligence artificielle, puisque c'est ça dont tu parlais à certains moments, la création d'œuvres d'art à partir de phrases issues de l'imaginaire ou de moments de fiction. Transformé derrière en NFT, c'est des choses qui commencent vraiment à arriver. Et alors, là où c'est très intéressant, c'est qu'effectivement, ça va permettre à beaucoup, à travers les métavers. D'ailleurs, Guillaume, il y a en ce moment même, à la Cité des Sciences, si je ne dis pas de bêtises, une exposition sur les métavers. Donc effectivement, ça commence vraiment à rentrer dans l'imaginaire collectif et même dans le langage courant. Et donc, ces œuvres qui, aujourd'hui, sont sur Internet, si on veut vulgariser un petit peu, demain, dans les portefeuilles numériques des gens qui veulent le collectionner, sera très vite dans nos quotidiens, pour écouter de la musique, pour mieux financer nos artistes et puis pour briser un peu le cercle de partage de l'information.
Et moi, je vois les métavers comme en fait un entertainment, comme un livre, comme un film en fait. De la même façon que quand on lit un livre, on est physiquement assis et on lit et notre esprit est dans les mots. Quand on va au cinéma, on est seul et on regarde, on est dans la peau de l'acteur si le film et la narration nous intéressent. Et le métavers, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que on reste dans un monde physique malgré ce que les gens pensent. Le virtuel est totalement réel. On le vit, c'est-à-dire qu'en fait, on va être à l'intérieur de l'expérience qu'on vit dans le métavers. Mais c'est notre vie réelle à laquelle on prend part. Et je pense que c'est comme ça qu'en fait il faut le voir. Et peut-être que les premières expériences dans les métavers sont un petit peu déceptives, et c'est un peu logique, c'est un peu comme le e-commerce au tout début. Quand vous alliez faire vos courses sur un shop au départ, c'était compliqué.
Ça prend pas trop pour l'instant, enfin on en parle là comme
alors
ça.
Alors moi, personnellement, je suis en train de construire mon métavers sur Sandbox.
Oui.
Et ça va s'appeler One Life, Two Bodies. Moi, je suis un grand fan de Star Trek. La téléportation, j'y ai cru.
C'est notre génération, toujours. Ça. Vous savez ce que c'est Star Trek, Vincent, Valentin, vous avez déjà.
Vous savez ce que c'est les métavers, Guillaume.
Et je crois vraiment que les métavers sont la téléportation. Sauf que on nous a vendu la téléportation comme étant une téléportation physique, où on va d'un point à un autre. Sauf que là, en fait, ce sont ces mondes qui viennent à nous. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas être méfiant de tout et que tout va être extraordinaire. Mais par contre, je pense qu'il y a des vrais projets artistiques.
Vous pensez pas en l'occurrence que le métavers est une soustraction, que le métavers propose de soustraire au monde sa réalité?
Non, pas du tout.
Non.
Ah non, je crois vraiment pas. Je pense que c'est de la même façon que les jeux vidéo ou la musique électronique quand ils sont arrivés. On dit, oulala, mon dieu, ça n'est pas de la musique. Jeux vidéo, oulala, mon dieu, nos enfants vont devenir fous et bêtes. Et là, c'est un peu la même histoire. Non, je crois aucunement que.
Vous adoreriez que vos enfants passent leur journée dans le métavers?
Alors, j'ai envie de dire, moi, je suis quand même, un père permissif. Donc, si c'est son choix, j'ai envie de dire oui. Mais je pense je lui donnerai quelques directives et quelques guidelines.
Ouais.
Mais je pense qu'il y aura des expériences très excitantes.
Alors, juste pour proposer deux secondes de retour à la réalité, on voit le marché des NFT beaucoup souffrir depuis maintenant plusieurs mois. Il y a toujours des questions de sécurité, la spéculation persistante quand même. Le grand public, dont l'intérêt pour ce marché pour l'instant doit encore faire ses preuves. Est-ce que ce ne sont pas les signes quand même que vous vous émerveillez pour une bulle de savon?
Alors j'adore prendre le bain. Donc si c'est ça la question, j'adore prendre des bains, m'y prélasser. Et si le beer market dure un petit peu longtemps, je resterai un petit peu plus longtemps dans mon bain.
Il fait chaud dans votre beer market?
Mais je pense, en fait, les beer markets sont des périodes, enfin c'est mon troisième que je vis. Donc je suis pas du tout inquiet et je peux comprendre pour que voilà c'est pas forcément quelque chose d'agréable bien entendu mais c'est les meilleures périodes pour construire, c'est les meilleures périodes pour imaginer des, on parlait de métamorphose, des projets futurs. À Paris on a créé la NFT Factory qui est un lieu qui va prendre jour dans quelques semaines.
Qu'est-ce que c'est que ça? En plus vous l'avez appelé NFT, mot que vous détestez, NFT Factory.
J'avoue que ma voix n'a peut-être pas été assez entendue, je n'ai pas assez peut-être parlé ce jour-là. Mais c'est un lieu où en fait un lieu de convivialité où on va pouvoir se renseigner sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, sur les NFT, sur l'art, parce que moi c'est quand même ce qui me passionne avant tout le reste. Et ce sont des lieux où il y aura des lieux d'exposition, des lieux de rencontres, de conférences. Donc voilà, c'est des énergies et des émancipations nouvelles.
Certaines de vos œuvres d'ailleurs NFT ont été vendues par des maisons d'enchères traditionnelles. Ça dit
alors
quoi
la,
ça?
La toute première, oui, celle qui s'est passée dans ces fameux champs de chanvre. Et on est en train de discuter avec une autre auction house pour un drop fin octobre, début novembre, en effet.
Bon, et l'avenir de la blockchain et des NFT, vous estimez que toute la proposition est déjà là ou vous estimez que cet univers va encore enrichir sa proposition?
Ah, je pense que le Web3 n'est pas du tout une finalité. C'est juste une étape. Je pense que c'est vraiment. Je suis pas du tout un oracle et à chaque fois que je prédis quelque chose, ça se passe pas. J'avais promis qu'Instagram ne marcherait pas, comme quoi je me suis un petit peu trompé. C'est juste que c'était pas un média pour moi, je pense, et que je suis très heureux que le Web3 arrive et qu'il ringardise un petit peu justement ces réseaux sociaux.
Bon, et donc là on a vraiment le cas illustratif. Pardon de vous décrire comme un cas.
Je vous en prie.
Mais voilà, l'illustration, la conversion d'un artiste à cet univers du Web3, ce potentiel que vous trouvez au Web3.
Mais ceci étant, je suis toujours un être de chair,
oui.
et sans doute un peu d'os, et je vous convie à chacune de mes dates dans le monde entier, et je continue à sortir de la musique de façon classique. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer des mondes, et c'est juste des mondes qui sont en train de s'enrichir. Et je pense que si les artistes justement prennent part à ces mondes, on pourra avoir peut-être une lecture plus positive que si elle n'était que financière et marketing.
Agoria, Sébastien Deveau, ce sera samedi soir, on vous retrouve au Palais de Tokyo, c'est ça ?
Absolument.
Prochaine représentation.
Vous êtes bienvenus.
Grand plaisir. Donc voilà, producteur de musique électronique, vous estimez que le Web 3 sera au monde ce que la musique électronique a été au marché de la musique ? Vous le voyez comme ça ?
Encore une fois, je ne pense pas que ce soit le Web 3 qui faille comme ça étiqueter. Ouais. Je pense qu'il y a des plateformes qui sont extraordinaires, en tout cas pour que ce soit SuperR et Object. J'invite tous nos spectateurs à regarder.
Bon. Merci de nous avoir accompagnés, d'être passé nous voir pour votre grande première sur BFM Business. Sébastien Deveau, donc alias Agoria, fondateur des Nuits Sonores à Lyon et du label Sapiens. 5 albums à votre actif et converti à tout cet univers de la blockchain. Merci beaucoup. Merci Valentin.
Merci Guillaume.
Valentin Demet, régulièrement à nos côtés, bien sûr journaliste pour Cryptost également. Il aura donc découvert Star Trek aujourd'hui sur le plateau de BFM Business.
Ravi de vous avoir expliqué le métaverse.
Valentin, à demain.
À demain Guillaume.
Bon retour. Merci messieurs. Dans un instant, la séance du jour en direct, le comeback du réel. Le CAC 40 recule, ça fait mal, c'est le retour au réel. Recul d'1,2%, on s'en parle dans moins de 2 minutes, juste après la pause. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.